Que la paix du Seigneur soit avec tous. Merci, mes bien-aimés, à vous tous qui allez suivre ce message. Je voudrais d'abord que nous comprenions qu'il n'y a rien que de ce que Dieu a créé qui existe sans aucune raison, sans aucune importance. De même, nous, nous avons été créés dès le commencement. Le Seigneur nous a créés pour nous cultiver et pour nous garder, comme dit la Bible. Nous avons été créés pour finalement finir comme des serviteurs de Dieu. C'est ainsi que toutes les paroles que nous avons entendues nous préparent à ces services. De même que quelqu'un, s'il veut aller travailler, il se prépare, il ne va pas aller n'importe comment. Ce n'est pas pour n'importe quelle tenue. Un policier qui doit aller travailler porte sa tenue de service et chacun sa tenue de service. Nous aussi. Et notre tenue à nous pour nous présenter devant Dieu, c'est notre état d'esprit, la sainteté. C'est pourquoi, quand nous sommes amenés à la repentance, pour changer de vie, pour nous préparer, pour pratiquer le bien, pour renoncer au mal, tout cela est un habillement que nous nous faisons. Nous portons une certaine tenue qui nous permet de servir Dieu, qui nous permet à ce que le Saint-Esprit puisse nous habiter pour le servir. Il n'y a pas donc d'autre raison. Nous devons servir Dieu. Chacun est important, quel que soit l'état de vie, quel que soit ton sexe, quel que soit ton âge. Nous avons été créés pour la gloire de Dieu, pour le servir. Pour mieux comprendre cela, je vais lire un texte qui se trouve dans Ésaïe, chapitre 5, car le Seigneur nous donne un exemple sur sa vigne. La vigne nous représente nous. Il avait une vigne. Et cette vigne, il a tout fait pour préparer cette vigne, comme le dit dans l'Ésaïe chapitre 5, bien sûr, au verset 1. Une vigne qui a été plantée est sur un coteau fertile. Il a choisi une bonne terre et il a placé sa vigne là. Il a remué les sols, ôta les pierres, et il mit un plan délicieux. Il bâtit un tour au milieu d'heure, et il creusa aussi une cuve à côté qui ne manque pas d'eau. Puis il espéra qu'elle produirait de bons raisins, mais elle en a produit de mauvais. Maintenant donc, au verset 3, « Habitants de Jérusalem et hommes de Juda, soyez juges entre moi et ma vigne. Qu'y a-t-il encore à faire à ma vigne ?» que je n'ai pas fait pour elle. Mais pourquoi, quand j'ai espéré qu'elle produirait de bons raisins, en a-t-elle produit de mauvais? Je vous dirai maintenant ce que je veux faire à ma vigne. J'arracherai la haie pour qu'elle soit broutée. J'en bâtirai la clôture pour qu'elle soit foulée aux pieds. Je la réduirai en ruine. Elle ne sera plus taillée ni cultivée. Les ronces et les épines y croîtront. Et je donnerai mes ordres aux nuées, afin qu'elles ne laissent plus tomber la pluie sur elles. La vigne de l'Éternel des armées, c'est la maison d'Israël. Bien-aimés, cette parole nous concerne. Pour ce qui est de suite et le détail, voyons ce que le Saint-Esprit peut nous dire. Et cette parole nous concerne tous. Il y a de quoi se poser la question. Est-ce que nous sommes cette vigne qui produit? Est-ce que nous sommes ceux qui donnent et font la volonté de notre Père ou nous faisons justement le contraire? Le Seigneur nous guide au nom de Jésus-Christ. Cette histoire qui est racontée par l'inspiration du Saint-Esprit, Ésaïe nous l'a expliqué. Et il nous montre qui nous sommes réellement dans les mains de notre Dieu. Nous sommes comme des vignes. Nous avons été plantés en espérant que nous allons produire quelque chose, des fruits et de bons fruits. En tant que croyants et en tant que chrétiens et disciples de Christ, nous savons ce que cela signifie. Nous avons été créés pour nous mettre au service du Seigneur. Et là, comme les disciples l'ont été, un jour Jésus a dit, « Vous m'appelez Seigneur, vous le faites bien, parce que je suis votre Seigneur. » En quelque sorte, votre maître, votre patron. Mais après un certain temps, quand ils se sont mis maintenant à suivre Jésus-Christ, il a dit, vous êtes mes amis, car le moment est venu que je vous dise tous les secrets. de ce que nous sommes en train de faire. Et quand le moment était venu aussi que lui-même il a rendu grâce pour payer le prix du péché, il ne les appelle plus ni serviteurs, ni amis, mais mes frères, ceux qui ont maintenant un lien de sang commun, les rachetés de Dieu. Il y a donc un objectif. On ne doit pas regarder le christianisme comme une distraction, un théâtre, un passe-temps. Non, cela nous engage vraiment totalement. Ce n'est pas en vain que Dieu est en train de parler. Déjà, les anges servent Dieu. Nous aussi, nous sommes au service. Quand l'ange était apparu à Josué et que Josué se prestait à se mettre à genoux, il lui a dit, « Garde-toi de le faire, je suis serviteur moi aussi, comme vous. Nous servirons tous Dieu. » Alors, si on ne sert pas Dieu, nous avons choisi un autre maître. Alors, si on ne sert pas Dieu, nous allons nous trouver en train de servir l'ennemi de Dieu, le diable. La parole de Dieu dans le livre de Romains nous dit quelque part, au chapitre 6, dans le livre de Romains, il nous dit, « De même que nous avons été, pendant notre ignorance et notre première vie en tant que païens, nous étions des instruments que le diable se servait pour nous conduire au péché, à la désobéissance, à la rébellion et entraîner plusieurs dans le même chemin. Aujourd'hui, en Jésus-Christ, nous sommes devenus des instruments de la justice auxquels le Saint-Esprit nous habite et nous conduit pour nous utiliser comme des armes de la sainteté, les armes de la foi pour Dieu, pour nous conduire à la vie et à la vie éternelle. On ne peut pas exclure le but. On n'existe pas pour manger, pour boire, pour se curer, pour faire des enfants, pour nous marier, pour projeter de mourir comme un animal et tout s'arrête là. Non, l'homme est autrement. Si un animal disait cela, même un animal, s'il existe, c'est pour la gloire de Dieu. Rien que sa présence nous parle de l'existence de Dieu. C'est déjà un service. Tout a une raison. L'univers tout entier exprime la présence de Dieu et sa grandeur et sa gloire. Comment un homme échapperait-il au service qui lui a été demandé pour essayer d'en inventer un autre? Et finalement, nous ne savons pas d'où nous venons et nous ne savons pas où nous allons. Comment allons-nous échapper? Ce que nous voyons ce que nous voyons sur terre ne représente pas la vérité de tout ce qui existe. Ce n'est qu'une petite cellule, une graine de sable parmi tous les autres que nous ne connaissons pas ce qui est derrière. Et personne n'a vu Dieu, si ce n'est celui qui est venu nous parler de Dieu. Et celui-là, il nous explique, il nous donne la parole. Celui qui voulait des preuves pour savoir est-ce qu'il vient vraiment de Dieu, mais quel est le nom qui puisse être aussi puissant comme le nom de Jésus-Christ, qui jusqu'à aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ, nous chassons des démons, les malades sont guéris, qui changent de vie. A-t-on déjà vu un nom comme ça? Est-ce que ce n'est pas là une preuve? S'il n'y avait pas ça, nous dirions que c'est une fable, c'est de n'importe quoi. Mais si ces choses se font, c'est qu'il existe bel et bien dans le monde parallèle, dans le monde spirituel, il existe bel et bien la présence de Dieu. Nous sommes donc appelés à servir Dieu. Si nous regardons quand Moïse allait sur l'ordre de bâtir le tabernacle, tous les ustensiles qui se servaient pour utiliser, pour faire des sacrifices, pour faire toutes ces choses-là, il y avait une façon que cela devait être. La plupart de tous ces objets étaient en or. Et pourquoi en or? Parce que ça devait être très propre, brillant, qu'on puisse voir que c'est de prix. Et aussi, même les agneaux et les brebis qu'on apportait pour les sacrifices, c'était des brebis sans tache. C'était des brebis propres qu'on choisissait, le meilleur qu'on donnait à Dieu. C'est comme ça que cela se faisait. Et nous donc, pour avancer, nous devons être comme ces outils en or. Nous devons briller, non pas de l'extérieur, non pas par des vêtements, par notre état d'esprit. Nous devons être saints et purs. C'est à cause de cela. Celui qui se répand se prépare au service. Celui qui a décidé de suivre Jésus-Christ, qui s'attend à servir Dieu. Et ce service est contraire, ce n'est pas pour de l'argent que nous travaillons. Nous travaillons pour le royaume des cieux. Et pour notre travail, nous avons eu tout, comme le livre d'Ésaïe le dit aussi. Qu'est-ce que je dois encore faire que je n'ai pas fait? J'avais tout fait. Ainsi, tout l'exemple qu'il donne, oui, nous étions loin, nous nous sommes approchés, il nous a lavé, il nous a pardonné, il a chassé les démons dans notre vie. Il nous a sanctifiés, il a donné même de son esprit. Et qu'est-ce que nous faisons? Si nous croyons que tout cela, c'est pour que nous retournions pour faire, nous amuser avec tout ce qui est contraire de Dieu et être amis de l'opposition, des opposants de Dieu, si nous faisons cela, il dit ici, soyez juges entre vous, entre moi et ma vigne. Qu'est-ce que je veux faire maintenant? Qui me donnerait tort si maintenant je me décide d'arrêter, de me comporter autrement vis-à-vis de lui. Comme il dit, je te protégeais, j'ai mis une clôture, ainsi les animaux ne pouvaient pas venir te déranger. J'ai mis une cuve pour que tu ne manques pas d'eau. Je fais pleuvoir sur toi. Il y avait toujours de quoi manger. Et maintenant, s'il n'y a pas de fruits, tu me donnes de mauvais fruits. Qu'est-ce que je veux faire? Mais quelque part dans sa sagesse, il dit, je le laisse encore. Je vais le laisser encore pour voir si cette saison, la prochaine saison, si encore une fois il ne me rapporte pas de fruits, je vais le faire remplacer. L'Apocalypse a dit, repens-toi, autrement quand je viendrai, je vais déplacer ton chandelier et je vais le faire remplacer par un autre. Personne ne peut garder un arbre stérile quand il s'entendait de cet arbre de fruits et le garder. Si cette arbre est stérile, alors ça ne sert à rien. Autant l'enlever et placer un autre arbre qui produirait des fruits. Dieu n'agit-il pas de la même manière pour nous? Si nous parlons, si nous sommes enseignés, nous n'oublierons jamais que l'objectif final, c'est pour en arriver là. Nous ne sommes pas là parce que nous devons exister, parce que l'on doit manger, parce qu'on doit boire, et qu'on nous dit, voilà le but de la création, manger, boire, et tout. Non, ce n'est pas cela. Pierre l'a dit d'ailleurs quelque part dans son livre, il a dit, ce n'est pas pour le manger, pour le boire, ou pas des choses du monde au travers lesquelles nous avons été rachetés, mais c'est par le sang de Jésus-Christ. Et ce sang n'a pas coulé en vain, il y avait une bonne raison, puisque nous devenions participants. Pour participer, c'est-à-dire il y a quelque chose qui s'est fait. Il y a une action quelconque qui s'est faite dans le ciel dont le Seigneur attend à ce que nous participions. De même qu'une femme, quand elle vient, elle entre dans le monde, Dieu déclare que c'est une aide, mais pour aider, on aide quelque chose, un effet, quelque chose qui s'est fait déjà. Alors, on vient pour aider. Donc, pour aider, nous devons avoir la même direction, le même esprit, la même vision. Autrement, on n'aide pas quelqu'un en venant pendant qu'il avance, toi tu fais marche arrière. Ce n'est pas aider ça. Ça se fait justement le contraire. Le monde n'existe pas pour rien. Et nous tous, nous passons par la naissance et finalement par la mort. Pourquoi? Parce que nous sommes recyclés. Autant que le peuple Israël était dans le désert et que dans le désert, c'était pour voir s'il garderait ou garderait pas la parole de Dieu. Il en est de même pour nous. Nous existons ici sur Terre parce que Dieu prépare un autre endroit. Ici, c'est en quelque sorte la terre de test, la terre pour prouver que nous sommes réellement de Dieu, la terre qui va nous faire ressortir tout ce qui est dans nos cœurs et dans nos vies cachées. Car il n'y aura pas seulement de bonnes choses, il y aura des situations graves. Vous savez, pour savoir exactement dans le mariage, qu'est-ce qu'on dit? On se marie pour le bonheur et pour le pire, voyez-vous? Pourquoi on dit les deux situations? Parce que les deux situations vont être là. Pendant que vous dites oui, je t'aime jusqu'à la mort, oui, mais il faudrait que ces choses arrivent et ensuite on pourra voir, on pourra comprendre. Oui, c'est vrai, ce lien dont on en parle est réel. Pourquoi? Parce que même dans des situations difficiles, ils sont restés ensemble. Même quand il n'y avait rien, l'homme et la femme sont restés fidèles l'un de l'autre. Voilà ce que cela signifie. Sur Terre, c'est la même chose. Nous ne sommes pas là pour rien, je vous l'ai dit avec sincérité. Je vous dis avec vérité. Évidemment, pendant que nous sommes là, nous mangeons, nous nous habillons, nous nous marions, nous faisons des fêtes, nous nous déplaçons. Mais ça, ce qui est tout à fait logique, c'est la part des choses qui sont terrestres. Mais l'objectif n'est pas la terre. L'objectif est ailleurs. Celui qui oublie l'objectif final se perdra. Parce que ce n'est pas l'objectif de venir sur terre, de devenir des rois, de s'enrichir, d'avoir en abondance chez soi, remplir ton garde-robe, remplir ton parking avec toute la collection de tous les véhicules. Ce n'est pas cela. Là, vous vous trompez. Le but, c'est de servir Dieu. Rappelez-vous, sur quelle parole Dieu avait dit à Moïse d'aller libérer son peuple? N'est-ce pas qu'il a dit, « Va dire au Pharaon de libérer mon peuple pour qu'il puisse venir me rendre culte au désert. Libérer mon peuple pour qu'il puisse venir me servir. » Voilà ce qu'il avait dit. Il y a donc une raison dans tout cela. Mais celui qui ne se prépare pas à ça, celui qui ne se met pas à cet état qui nous permet de servir donc le Seigneur, est en dehors. Est en dehors. Et je vous dis avec sincérité, si vous restez là pour finalement faire de cette condition, cet état de vie, si tu gardes cela et finalement ça devient ta vie, la vie de l'opposition, la vie de la rébellion, je vous dis, tu as vraiment choisi le mauvais côté. Ce n'est pas ça le chemin. Il faut que tu réfléchisses. Avant la mort, beaucoup de gens reviennent en eux-mêmes et ils voient le film de sa vie. Ils regardent depuis sa naissance jusqu'au bout et qui se voient obligés de tout abandonner. Il abandonnera ses biens. Il n'y aura plus de mariage. Il va abandonner tout ce qu'il a construit, tout ce qu'il a bâti. Ce compte en banque, tout cela va rester. Il va donner à qui? Ça, il ne sait pas. En tout cas, on ne va pas l'enterrer avec ses biens. Mais c'est à ce moment qu'il va se rendre compte. La mort est là. Et pourtant, il est là. La mort est la mort physique. Et lui, il est là. Il pourra voir son corps. Il pourra voir ce qu'il pleure pour lui avant qu'il quitte cet endroit. Mais qui va venir le chercher? Est-ce que ce sont les anges de Dieu ou c'est le diable qui va venir le récupérer? Ces choses sont réelles, mais hélas, le problème est lequel? Quand on arrive là, ce n'est plus possible de faire marche arrière. Quelques-uns parmi les humains, il y a des revenants, des gens qui sont morts et qui sont revenus. Nous connaissons cette histoire. Aujourd'hui, quand vous regardez dans les infos, aussi dans les YouTube, que de témoignages et des témoignages, des gens qui pleurent et vous sentez qu'ils disent vrai. Ils ont été à l'hôtel. D'autres ont visité même l'enfer. D'autres ont vu Christ. Et Christ a dit, ce n'est pas encore le moment. Allez-y. Et tout cela pourquoi? Pour l'air qui nous explique, qui confirme la parole, que derrière le rideau, il y a autre vie qui nous attend et que nous devons nous préparer ici. Et quand nous le disons avec amour, avec simplicité. Et quelques-uns n'entendent pas. Tout comme si que tu parles à quelqu'un et qu'il ne t'a pas écouté, tu vas hausser un peu le ton, peut-être, c'est à cause du vent, alors tu vas crier un peu plus fort. Mais malgré tout cela, rien ne se fait. Mais si rien ne se fait, bon, peut-être que tu aimes bien ton chemin, que tu as déjà fait ton choix de vivre loin de Dieu. Oui, un jour, alors que je donnais des papiers de rendez-vous au centre de Paris, on avait essayé pour voir quand j'étais venu, créer le taux des croyants. Sur 100 invitations, j'ai donné. J'ai donné à des gens sur la route. Nous allons faire la prière. Est-ce que tu veux venir? Nous allons faire la prière. Sur 100, quelques 5 personnes m'ont dit oui. Et sur le 5, 2 sont arrivés. Mais parmi les réponses que je recevais, ce qui m'a étonné, j'en ai parlé à un et il m'a crié, il m'a engueulé même. Il m'a dit, moi je vais aller en enfer. J'ai dit, oh, c'est bon. Et je me suis rendu compte du niveau de l'incrédulité ici, de comment les hommes sont. C'est vrai, beaucoup d'appelés, très peu de lits. C'est vrai ce que le Seigneur a dit. Mais puisque nous avons entendu et que nous avons fait le premier pas, nous avons goûté à la parole de Dieu, nous avons goûté à l'expérience du Saint-Esprit et que Dieu a fait certaines choses dans notre vie, et nous avons compris nous-mêmes que cela, il n'y a que Dieu qui a pu faire cela. Et alors, faisons attention au reste. Parce que si Dieu a montré ça, il y a une bonne raison. Il y a une bonne raison que nous sachions qu'il existe et Christ est réel et toute sa parole est vraie. Nous devons donc faire attention pour ne pas être emportés, pour nous trouver dans une situation grave. Et quand je dis grave, on peut pécher. On pêche, on se repent, et on se remet debout et on revient à la maison. Mais pécher pour finalement être habité par le péché, de manière que l'état de péché devient ta vie, ton choix. Alors là, c'est vraiment grave, parce qu'il ne sera pas toujours facile de revenir. On peut tomber une fois, je vous dis, démolir, ça va très vite. Mais pour construire, ça prend un autre temps. Ce qui a été détruit en une seconde peut mettre des années pour le reconstruire. C'est de même que quand on est avec Christ, c'est facile de tomber. En 2 minutes, on peut se trouver très loin du Seigneur. Mais mieux vaut de revenir tout de suite avant que ce qui a été grave ne soit encore plus grave que tu ne le crois. Et même que finalement, que d'autres démons arrivent pour aggraver la situation, tu n'as plus le courage de revenir, tu n'auras plus le courage de prier, tu n'auras plus le courage de confesser, et tout cela entre, tu deviens si lourd, tellement lourd que tu crois, bon, je ne sais plus quoi faire. Voilà, là où on arrive. Ce n'est pas parce que tu décides, mais c'est en conclusion ce qui va arriver. Ce qui va arriver. Si nous lisons le texte ici de Ésaïe 5, nous comprenons alors le Seigneur a dit, « Soyez juges entre moi. » Et il a dit, « Avant que je prenne des décisions, vous-même, dites-moi, aurais-je tort si je décide le contraire ?» Non, le Seigneur a toujours raison. Ainsi, comme le Seigneur nous a dit, revenons vers lui, revenons-nous. Apportons-lui les fruits qu'il attend de nous. Parce que nous avons notre bénéfice et lequel nous existons. Nous sommes entrés à la vie et nous vivons. C'est déjà ça. Nous avons un nom, nous avons un espace que nous occupons, nous respirons. C'est un don de Dieu. Mais montrons maintenant qu'une fois avoir pris connaissance et conscience, nous sommes prêts à venir maintenant à devenir cette lumière dont le Seigneur s'attendait de nous. Que dirais-tu si tu as un fils que tu as tant souffert pour lui, tu l'as nourri, tu as fait tout, l'école, tout ce qu'il fallait, et qu'une fois l'enfant grandit, il te renonce, il dit qu'il ne te connaît pas, il dit que tu te débrouilles, il te dit des choses semblables. Ces choses, nous le voyons aujourd'hui beaucoup. Je crois qu'il y a d'autres parents qui sont presque prêts de dire « Si j'avais su, jamais je n'aurais eu cet enfant ». Il y a beaucoup qui disent comme ça. Quelle peine perdue, toutes les souffrances, des nuits sans sommeil, et finalement pour arriver là. La parole de Dieu nous dit, soyons fils de votre Père. Ça veut dire, tel que le Père était, toi aussi sois de même, sois à ses côtés. Il n'y a pas meilleure chose que les parents voient de leurs enfants qui sont en train d'hériter le même tâche. Ils viennent épauler, ils viennent pour diriger. Nous voyons très souvent, même en métier, je fais le métier de mon père et mon père a fait le métier de mon grand-père. Et les parents sont contents quand ils voient cela. Mais quand nous sommes dans la famille et que maintenant étrangère à la vie des parents, et tu leur dis, c'est leur sort, ça ne me regarde pas. Si on agit ainsi, croyez-moi, ça ne sera pas pour nous une bénédiction. Une source de la malédiction, une rouille dans ta vie qui risque de devenir un jour plus grave. Donc, bien-aimés, prenons conscience à cela et revenons. Quel que soit l'état de tes parents, quelle que soit leur manière d'agir, admettons qu'ils soient pécheurs, admettons qu'ils soient éloignés de Dieu, c'est que tout à fait logique, ils peuvent en avoir. Mais croyez-vous vraiment, parce qu'ils sont péchés, parce qu'ils sont éloignés de Dieu, s'ils prononcent quelque chose contre toi et que ça ne va pas agir? Revenons un peu en arrière. Noé, après la déluge, il s'est mis à boire. Un jour, il s'est couché tout nu devant ses enfants. Et un seul enfant est venu en reculant pour couvrir la nudité de son père, et les autres se moquaient de lui. Mais quand Noé s'est réveillé, il les a maudits. C'est vrai, et la malédiction a fonctionné. Ce n'est pas parce que Noé était en faute qu'il se comportait comme ça que la malédiction n'a pas eu lieu. Lui, il a mal fait, il a son compte. Mais celui qui se moquait de lui, le père, il a parlé et ils ont été maudits. Donc, faisons attention. Nous ne voulons pas comment imiter le mal. Si on a des parents mauvais, ne sois pas mauvais parce que les parents sont mauvais. Toi, fais la différence. Tu as des enfants aussi. Avant que le même sort ne t'arrive à toi quand tes enfants seront grands et que tu t'étonnes, fais attention à cela. Car tout ce que nous faisons est une semence, nous le savons, nous le répétons un peu souvent. Pour revenir à ce que nous disons, donc attends-toi et comprends, s'il te plaît, tu n'es pas un arbre que Dieu a mis là sans aucune fonction et que pour dire Dieu ne s'attend rien de toi, qui que tu sois, comme tu es là, tu es valable, Dieu te connaît, Dieu t'aime, il a pris la peine de te créer. Que tu sois un homme de grande taille, de petite taille, que tu sois un homme de telle race ou d'une autre race, que tu sois femme ou que tu sois un homme, quel que soit ce que tu es utile dans l'ensemble. Ta présence est nécessaire. Tu dois comprendre ça. Tu dois retrouver ta vraie vie auprès de notre Dieu. C'est là où il t'attend. C'est à cause de cela qu'il t'a créé. Si tu renonces à tout cela, je vous dis, avant longtemps, quelque chose va t'arriver. Et ça, tu peux me croire. Avant longtemps, quelque chose va t'arriver et tu te rendras compte que, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est justement, si Dieu a dit cela, parce qu'il n'y a pas que Dieu. Nous avons Dieu qui nous aime et nous avons quelqu'un qui nous déteste. Mais tant que nous sommes avec Dieu, nous sommes protégés. Mais quand nous nous éloignons à sa volonté et nous ne faisons pas ce que Dieu veut que nous fassions, nous sommes exposés. Nous sommes exposés à des balles perdues, à des flèches qui volent, de l'ennemi qui peut t'atteindre à tout moment, à toi, même à tes enfants. Quelque chose peut arriver, après tu vas te demander, qu'est-ce qui m'arrive? Mais tu t'es mis, les autres sont couchés, pourquoi tu t'es mis debout? Pourquoi te rebelles-tu? Pourquoi n'acceptes-tu pas? Ces paroles ne sont pas vaines. Jésus a dit, oui, je reviendrai, repends-toi, quand je reviendrai, si je trouve que la repentance n'a pas été faite, je me verrai obligé en ce moment-là. Tu m'auras donné toutes les raisons pour que tu ne sois pas là. Donc, bien-aimés, réfléchissons à cela. Non, un homme ne s'appartient pas. Aucun homme ne s'appartient. Comme la terre, elle appartient à quelqu'un. C'est un bijou que Dieu a créé. On fouille maintenant tous les autres planètes. Il n'y a pas une comme la terre. La terre est un bijou. C'est un joyau que Dieu s'est fait et il y a mis de la vie. Et comme nous sommes là, il y a un but dans tout cela. Donc, prenons conscience. Nous n'avons pas l'habitude de contester. Nous n'avons pas l'habitude de toujours s'asseoir sur les rangs des athées, de ceux qui veulent contester contre Dieu. Nous avons choisi la vie. Nous sommes prêts donc à l'écouter, à le suivre. Et comme ce matin, comme le Seigneur nous parle, il n'y a rien pour rien. Revenons un peu en arrière. Il y a longtemps que nous avons vécu pour nous-mêmes, que pour nous-mêmes, pensé pour nous-mêmes, que pour nous-mêmes, même des choses que nous disons, que pour nous-mêmes et que pour nous-mêmes. Il y a longtemps que nous avons vécu. Quand est-ce que nous comprendrons que nous avons été créés pour les servir? Depuis le livre de Genèse, il a dit, « Je vous ai créés pour vous cultiver et pour vous garder. » Il y a une raison. Les anges sont là, il y a une raison. Les saints sont là, il y a une raison. Les 24 vierges sont là, il y a une raison. Toute créature qui a été créée, il y a une raison. Mais si la raison à laquelle nous avons été créés, si cette raison ne se manifeste pas, nous risquons de rejoindre les rebelles. Voilà. Dieu, après avoir tout créé, il a créé aussi le ciel qui existe. Il a préparé un domaine, mais il a préparé l'enfer aussi. Parce que tous ceux qui disent non à Dieu se retrouvent dans le ténèbre. Pourquoi vous donner un soleil? Alors ils sont dans le ténèbre, pas de lumière. Et ce serait une vie. Bon, si c'était la prison comme dans le monde, tu vas faire 20 ans, on comprendra encore. Mais c'est l'éternité. C'est-à-dire, Dieu ne veut plus rien savoir, comme la plupart ne veulent plus rien savoir. Et Dieu agira de même. À qui réprécherons-nous? Nous, prédicateurs, nous faisons tout, tout en sachant que cette parole que nous prêchons est une parole comme un couteau à double tranchant. Ceux qui m'écoutent, et je m'écoute moi-même, cette parole va à l'avant et revient vers moi aussi. C'est-à-dire, moi-même, je dois faire attention de manière que je ne me trouve pas parmi les révoltés après avoir parlé de tout ça. Je fais attention. Et c'est pourquoi ces paroles, oui, ça peut nous sortir à différentes manières. Il y a des paroles de douceur, il y a des paroles vraiment, il faut parler avec force pour que nous comprenions l'importance. Avec cette parole, pour la journée d'aujourd'hui, une journée peut être le jour qu'on s'est choisi et que tu te dises à partir d'aujourd'hui. Croyez-moi, le jour que tu diras à partir d'aujourd'hui, le livre d'Hébreux dit quelque part, Dieu fixe de nouveau un jour, et ce jour qu'il appelle aujourd'hui, ce n'est pas lundi, mardi, mercredi, samedi, non, il appelle ce jour aujourd'hui, c'est-à-dire le jour que toi tu attends, c'est ce jour-là. Il a fixé ce jour, que quiconque qui aura entendu de cette parole revienne en arrière, entre dans lui-même, qu'il réfléchisse. Nous pouvons regarder la nature, la vie, ceux qui nous ont précédés, où sont-ils, comment ils sont nés et comment ils ont fini leur vie. Les tombes se remplissent, les tombes s'effacent. À croire que même, je crois que chaque mètre carré a déjà reçu un jour un corps pour être enterré là. Où sont partis tous ces milliards de milliards de milliards, chaque fois dans chaque génération? Il y a autant de naissances, autant de morts. Et chaque siècle, il y en a plus. Ils sont remplacés par d'autres. Où sont-ils? Réfléchissons à cela. Ne manquons pas ce que le Seigneur s'est proposé de nous offrir. Ne manquons pas à cela par la distraction des choses de ce monde. Ici, c'est une école. Ce n'est pas un point d'arrivée. On ne construit pas sa maison dans le train. Le train, c'est un passage. Là où tu es assis, ne venez pas demain au même jour dire « c'était ici ma chaise d'hier ». C'était pour hier, ça s'est arrêté pour hier. Si tu entres de nouveau, si tu n'as pas de place, mets-toi debout. Ce n'est pas ton train, ce n'est pas ton siège. Voilà comment la terre. Nous sommes venus, nous avons trouvé la terre comme telle, nous la quitterons comme telle. Mais où es-tu? Où est-ce que tu iras? Où tu vas? C'est ça qui compte. Et Jésus est venu le seul pour nous parler. Je suis le chemin. Le chemin. Que la gloire lui revienne. Dieu, merci pour ce message. Mes bien-aimés dans le Seigneur, nous venons donc d'entendre et de suivre ce message qui vient de la part de notre Seigneur. Ce message n'est pas seulement pour nous. C'est un message à partager. Va donc parmi tes frères, dans ta famille, parmi les amis, des personnes que toi tu connais, confie-les cette parole. Et je te dis, par le fait que tu partages cette parole, toi-même, tu deviens aussi le messager de Dieu. Car ceux qui seront bénis à cause de ce que tu fais, cette bénédiction, toi-même, tu auras ta part. À la gloire de notre Seigneur, que nous venons et que le Seigneur vous bénisse.